D'abord et avant toute chose, Marie-France, j'aimerais avoir ta réaction. La Cour supérieure qui ordonne au gouvernement du Québec de reprendre le traitement des 18 000 dossiers d'immigration, ça ne pouvait pas partir dans les limbes, comme le souhaitait le ministre. Les fameux dossiers d'immigration que le ministre avait suspendus jusqu'à l'adoption du projet de loi 9. C'est 10 jours de grâce et il faudra recommencer le processus dans 10 jours.
Exactement. Et il y avait une pression médiatique énorme. On a vu des reportages sur des cas précis, des cas crève-cœur. Et il y avait aussi une pression juridique. Et là, c'est l'Association des avocats en droit de l'immigration, qui étaient les demandeurs dans cette cause-là. Et c'est vraiment énorme ce qui vient de se passer. C'est un fiasco, c'est une défaite pour le gouvernement de la CAQ. Le juge leur dit, le ministre n'a pas le droit de détruire les dossiers. Alors, ça vient vraiment mettre les bâtons dans les roues parce que la CAQ voulait faire de ce projet de loi neuf et veut toujours faire de ce projet de loi une des pièces maîtresses de son début de mandat. Alors là, le gouvernement va devoir traiter ces demandes-là. 18 000, au total, c'est près de 40 000 personnes, jusqu'à preuve du contraire. Ça vient jouer, et en fait, on peut se demander, est-ce que ça vient jouer dans sa détermination et dans son objectif de réformer l'immigration? Jusqu'où ça va atteindre sa volonté, sa capacité? On ne sait pas encore. On verra ce que fera le gouvernement et ce que fera Simon Jolin Barrette. Mais je vais même plus loin. Est-ce que cette contestation judiciaire va devenir un leitmotiv pour s'opposer au gouvernement quand il veut aller très vite? Tout est ouvert. J'ai vraiment hâte de voir les réactions. La balle est dans le camp du gouvernement maintenant, mais c'est vraiment énorme, là, cette nouvelle-là.
Et évidemment, il faut revenir à ce verdict qui est tombé samedi après-midi dans le cas de Michel Cadotte, qui a été donc jugé coupable, reconnu coupable d'homicide involontaire.
Exactement. Et là, la juge Di Salvo va devoir rendre son jugement qui sera déterminant. Elle ne peut pas aller contre le jury, évidemment. Il n'y a pas non plus vraiment de précédent. Et elle a déjà fait preuve dans ses paroles d'une certaine compassion. Alors, ça ouvre la porte sur la suite. Qu'est-ce qu'on va faire avec les futurs? Son jugement va impliquer les futurs Michel Cadotte, les aidants aimants, dévoués, qui sont vraiment à bout, et aussi les futurs Jocelyne Lizotte emprisonnés dans leur corps, une situation que Mme Lizotte n'avait pas voulu non plus. Alors, du point de vue juridique, du point de vue légal, probablement que M. Cadotte fera une courte peine de prison. Il a tué, il est face à la justice, il le faut, il y a eu acte criminel, on ne peut pas banaliser le geste, même si ce n'est pas un dangereux criminel qui mettrait en danger la société, mais aussi il le faut pour la justice. Il va falloir savoir où regarder et prévenir, se questionner sur ce genre de cas qui, malheureusement, ne sera pas le dernier. Les chiffres, Paul, 30 % des 85 ans et plus dans notre société québécoise sont atteints de démence.
C'est énorme.
Au Canada,
30 %, c'est un tiers.
Des 85 ans et plus. Et au Canada, 80 000 nouveaux cas par année. Fait que ça veut dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et le jugement de Mme Di Salvo, ce ne sera pas juste sur le cas de M. Cadotte, ça concerne l'ensemble de la société québécoise. Et du point de vue des soins, du point de vue médical, ça vient, ce jugement-là va certainement réouvrir, ramener le débat, en tout cas l'emphase sur la question de l'aide à mourir dans les cas de démence par directive anticipée. Ça veut dire, mettons que tu souffres d'Alzheimer, tes proches aidants, tu t'occupes de ta mère qui souffre d'Alzheimer, tu te dis, non, moi je veux pas finir comme ça, et tu décides, alors que tu as déjà, dans les premiers stades de la maladie, ton libre arbitre, tu décides que tu ne veux pas mourir comme ça et que tu veux recevoir l'aide médicale à mourir. Quand tu es rendu à la phase 4 ou 5, évidemment, tu n'es plus là-dedans, tu ne sais plus, tu ne t'appartiens plus.
Exact, c'est parce que tu ne peux pas contrôler ton destin.
Exactement, et c'est là vraiment qu'il va falloir continuer à discuter. Et j'ai émis cette idée-là sur Twitter en fin de semaine, et là, j'ai échangé avec des gériatres, des éthiciens, des spécialistes en soins palliatifs, des médecins, et ça ne fait vraiment pas l'unanimité.
Non, absolument
eux,
pas. Moi, j'ai des amis médecins
qui sont
très divisés là-dessus.
Tout à fait, tout à fait. Et alors là, plusieurs me disaient, dans une approche palliative, on ne peut pas traiter les maladies qui surviennent. Ben, on peut décider de ne pas traiter les maladies qui surviennent quand tu es atteint d'Alzheimer à un stade avancé, par exemple une pneumonie.
Ouais.
Et là, ça abrégerait la vie sans souffrance, mais le sait-on vraiment? Oui, mais en même temps, il existe des souffrances qu'on ne peut soulager même avec les meilleurs soins palliatifs. Et comme je te disais, quand on voit nos proches et qu'on est nous-mêmes proches aidants et qu'on voit ce que c'est que l'Alzheimer dans des stades avancés, pourquoi ne pourrait-on pas demander à ne pas se rendre là? Et en même temps, il faut aussi aider les aidants, les cadottes de ce monde à mieux vivre. Et il faut vraiment donc, en plus, s'en donner comme société de plus en plus. On revient à nos 30 % de 85 ans et plus. Il faut s'en donner les moyens parce qu'on l'a vu dans le cas de M. Lizotte, de Cadotte. Ils sont isolés, ils sont obsédés, ils sont appauvris. Il avait perdu son emploi parce qu'il s'occupait de sa femme. Donc, c'est vraiment, ce jugement-là va faire époque, Paul. Il est vraiment très important et j'imagine que la juge Di Salvo est en train de vraiment peser chaque mot de son jugement. Il sera très important.
Alors, le Collège des médecins fait volte-face et s'entend finalement avec les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, qu'on baptise comme ça, là,
les super-infirmières. Oui, et c'est notre nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann, qui s'est entendue avec le Collège des médecins. Et ça a vraiment un effet extraordinaire. Ça vient déverrouiller d'un coup le système de santé qui était bloqué. Et à partir du moment où les docteurs ont dit « OK », le miracle est survenu. Dans tous les pays, les gains en efficacité reconnus par effectués par les super infirmières sont considérables et ils sont constatés. C'est vraiment documenté. Et au Canada, ça existe partout. Hein. On était les derniers à vraiment accorder le pouvoir de donner un diagnostic dans 6 maladies chroniques à ces dites super infirmières. On arrive après le Yukon. Et c'est vraiment fou quand même. Juste une petite observation. Ça prenait une ministre gestionnaire du système de santé, c'est ce qu'était Mme McCann jusqu'au 1er octobre, avec une vision peut-être plus globale qu'un médecin ou des docteurs. On peut a posteriori se poser la question, Paul, est-ce qu'un gouvernement de docteurs et un ministère mené par un docteur a contribué à bloquer ou, mettons, à ralentir le processus parce qu'ils étaient assis sur un certain corporatisme? Je regarde tout ça et je me pose la question. Les bons docteurs au pouvoir ont-ils entravé le système plutôt que de le faire avancer? Et si oui, quoi d'autre ont-ils ralenti ou empêché? On ne peut pas s'empêcher de poser cette question-là quand on voit ce qui vient de se passer, somme toute, assez rapidement, après des années après que le reste du Canada ait donné ce pouvoir aux infirmières patriciennes spécialisées. C'est quand même assez étonnant, tu trouves pas?
Étonnant, ça a débloqué tellement rapidement.
Tellement.
Et surtout dans la joie et l'allégresse, presque.
Oui.
C'est ça qui est étonnant.
Oui.
Encore la semaine dernière, il y avait certaines réticences auprès des ordres de médecins.
Oui, et les médecins québécois voulaient la même rémunération que le reste du Canada. Souviens-toi, il y a 2 ans, on était vraiment dans ces affaires-là et on nous le tartinait sur toutes les tribunes. Mais les mêmes avantages pour les autres corps professionnels médicaux, pas même chose. C'est fou, hein?
Oui.
C'était mon observation sur le dénouement de cette histoire des super infirmières.
Ben voilà, mais cette histoire qui se termine très bien.
Mais oui, voilà, et pour nous aussi, patients, on va vraiment gagner du temps. Maintenant, il faut les former.
Ben
hein.
Oui, c'est
elles
ça,
sont
400 ben,
et on en veut 1600 pour le 2025, imagine. C'est après-demain ça. Alors, il va vraiment falloir consacrer des budgets.
Mais c'est long, hein. Tu sais, on a fait une entrevue avec la faculté la semaine passée,
oui.
Et ils te foutent ton diplôme universitaire, mais c'est...
Exactement.
Je pense que c'est près de 6 ans d'études universitaires et de pratiques aussi, nécessairement, pour pouvoir être infirmière, praticienne spécialisée.
Mais c'est une très bonne chose parce que elles sont formées, elles ont leur bac à 100% au Canada, alors qu'elles sont 44% au Québec. Et les patients québécois, je pense, méritent tout autant que le reste du Canada. Et en même temps, c'est que ça soit que le bac soit la norme d'entrée dans la profession d'infirmière, c'est certainement un moyen de revamper le statut et le salaire des infirmières. Je pense que c'est une bonne chose sur toute la ligne. Vraiment, il était temps.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain, Paul. Demain.